Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Bientôt un nouveau gouvernement de cohésion nationale en RDC, annonce le président de la République. Et concernant la crise sécuritaire dans l'Est du pays, bien que nous remportions des victoires diplomatiques, nous devons rester vigilants et actifs, déclare Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est exprimé ainsi lors d'une rencontre avec les membres de l'Union sacrée hier à Kinshasa. Ituri, les soldats onusiens ont déjoué plusieurs attaques des groupes armés en une semaine, protégeant les sites des déplacés notamment dans les territoires de Djougou. Sans la présence onusienne aux côtés des FARDC, un carnage aurait eu lieu, rapportent des témoins. Et puis, le président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC, salue les sanctions des États-Unis contre Kabarebe et Kanyuka, mais il juge ces mesures d'insuffisantes. Charles Babana suggère au gouvernement de renforcer ses efforts diplomatiques pour convaincre les partenaires internationaux qui soutiennent le Rwanda. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, annonce qu'un gouvernement de cohésion nationale sera constitué dans les prochains jours. Il l'a dit lors d'une rencontre avec les membres de l'Union sacrée, hier samedi à Kinshasa, en ce qui concerne la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et l'avancée du M23 vers des nouveaux territoires. Le chef de l'État déclare, je le cite, « Bien que nous remportions des victoires diplomatiques, nous devons rester vigilants et actifs. » Fin de citation. Le président de la République salue également la bravoure des forces armées de la RDC, malgré quelques batailles perdues face aux rebelles du M23 et leurs alliés. Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, détaille ici certains aspects de cette réunion, propos recueillis par Michel Kifindangoy.
D'abord sur le front diplomatique, il a reconnu que des efforts ont été faits, que nous allions vers la bonne direction, que c'est la première fois en tout cas que le Rwanda a été cité nommément comme pays agresseur, mais que nous ne devions pas dormir sur nos lauriers. On doit tout de même rester vigilants et actifs parce que le Rwanda n'est pas seul. Ceux qui veulent continuer le pillage de nos ressources ne vont pas lâcher facilement. Donc c'est tout un système qu'il va falloir déboulonner. Alors sur le plan militaire, il a salué en tout cas la bravoure de nos FARDC malgré quelques batailles perdues. Il a annoncé en tout cas vouloir former rapidement une armée suffisamment professionnelle, une armée suffisamment prise en charge, notamment doubler leurs soldes, donner des primes. Il annonçait en tout cas également des trahisons à l'interne. Pour terminer, il appelait la population en tout cas à une mobilisation générale de défendre la patrie. Nos agresseurs ne sont pas plus forts que nous. Oui, en tant que président de la République, il est la sentinelle et aucun mal ne va arriver à notre pays. Nous devons pour cela rester unis, debout, déterminés et défendre notre pays.
Félix-Antoine Tshisekedi appelle notamment la classe politique congolaise à l'unité et à la vigilance face à l'ennemi. Ne nous laissons pas distraire par des querelles internes, des manipulations extérieures ou des divisions tribales. Nous devons rester unis. Notre force réside dans la détermination des Congolais, a dit le président de la République. Entre-temps, au Nord Kivu, les acteurs sociopolitiques de Goma saluent la résolution adoptée vendredi par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda et le mouvement rebelle M23. Cependant, ils disent attendre avec impatience la mise en œuvre effective des recommandations, notamment le retrait des troupes rwandaises des zones occupées, y compris Goma, Bukavu et leurs aéroports. Un jeune de Goma, sous couvert d'anonymat, affirme que la population attend des actions concrètes. Selon lui, la majorité des victimes de ce conflit sont des jeunes. On l'écoute.
Avec cette résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant le Rwanda pour son soutien au M23, nous, les jeunes de Goma, nous entendons en tout cas des actions concrètes sur terrain. Un point n'est besoin de rappeler ici que la plupart des victimes de cette guerre sont et ont été les jeunes qui ont pour beaucoup perdu la vie et d'autres sont des blessés. Nombreux sont ceux-là qui ont vu leurs activités économiques, leurs occupations réduites à néant. Et nous espérons pour une fois qu'avec cette résolution, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 vont quitter les sols congolais. Mais aussi un embargo sur les exportations minières rwandaises serait les bienvenus pour toucher les régimes de Kigali au portefeuille.
Ce jeune de Goma appelle à un renforcement du mandat offensif de la MONUSCO pour intensifier la pression sur l'ennemi. Il dit considérer cette résolution comme une victoire diplomatique partielle, mais souligne que la population attend la victoire finale. Pour sa part, la chef de la MONUSCO appelle à trouver une solution d'urgence pour le transfert en toute sécurité des personnes ayant trouvé refuge dans les bases de la mission onusienne à Goma, capitale du Nord Kivu, tombée sous le contrôle des rebelles du M23. Madame Bintou Keïta déclare fermement qu'elle ne céderait pas aux pressions du M23 qui exige la remise de ces individus. Elle s'est exprimée ainsi vendredi. Gisèle Cage nous en dit plus.
Bintou Keïta, qui était l'invité du point de presse quotidien de l'ONU à New York, a indiqué que plus de 1400 individus à haut risque, y compris des femmes et des enfants, s'étaient abrités dans les bases de la MONUSCO dans l'est de la RDC suite à la chute de Goma le 28 janvier dernier, malgré des fortes pressions exercées par le M23 pour que ces individus lui soient remis. La MONUSCO reste déterminée à assurer leur sécurité, a déclaré Madame Keïta, qui s'exprimait par visioconférence depuis Kinshasa, la capitale congolaise. À l'heure actuelle, la mission continue de répondre à des demandes de protection de la part de défenseurs des droits de l'homme, notamment des femmes qui subissent des menaces ou risquent d'être victimes d'attaques. La chef de la MONUSCO a réaffirmé que la mission entendait s'acquitter de son devoir de protection des individus non armés cherchant refuge à l'intérieur de ses bases, conformément au droit international humanitaire. Madame Keïta a par conséquent appelé à trouver de toute urgence une solution sûre, digne et soutenue par la communauté internationale pour transférer les personnes actuelles dans les bases de la MONUSCO vers un lieu sécurisé dans le plein respect de leurs droits et de leur libre arbitre.
Par ailleurs, les acteurs de la société civile au Nord Kivu dénoncent et condamnent fermement les crimes perpétrés contre les populations civiles et les travailleurs humanitaires dans le territoire de Masisi. Cette réaction fait suite à une attaque survenue jeudi, au cours de laquelle deux personnes ont été blessées par balle dans la base des Médecins sans frontières située au sein de l'hôpital général de référence de Masisi. Récit des faits avec Chris Mukandmatande.
L'une des victimes de ces attaques est décédée ce samedi matin après son transfèrement vers une structure sanitaire de Goma, venons-nous de l'apprendre. Elle avait été atteinte par balle alors que des combats faisaient rage dans l'espace situé entre le marché et l'hôpital général à Masisi Centre. Aujourd'hui, l'on parle d'un bilan provisoire de 3 morts et d'une dizaine de civils blessés durant les 3 derniers jours. Les combats ont eu lieu outre Masisi Centre, dans les localités de Katali, Luanguba, Kani, Kahongole, à la paroisse Mater Dei et vers Luchébéré, particulièrement dans la journée de jeudi, où des fortes détonations d'armes lourdes ont été entendues, signe de l'intensité des combats entre les rebelles du M23 et les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo. Ce samedi, c'est le calme sur les différents fronts dans le Masisi. Néanmoins, les hostilités pourraient éventuellement reprendre dans le chef-lieu du territoire. En effet, il s'observe depuis vendredi soir l'arrivée de renforts en hommes et matériel du côté rebelle à Masisi, renseigne nos sources dans la zone.
Et puis cette bonne nouvelle pour la population de Goma, la ville est à nouveau réapprovisionnée en eau potable de la régie des eaux ainsi qu'en électricité. Un véritable soulagement pour des milliers d'habitants de Goma après une longue période de perturbation. Le rétablissement de l'électricité est effectué par la société nationale SNEL après des dommages causés sur ses installations à la suite des affrontements dans la zone. Sifama Gourou, reportage.
C'est un calvaire qu'a vécu la population de Goma pendant presque 2 mois. Celle-ci était obligée d'aller chercher de l'eau à de longues distances, voire même au lac Kivu, avec tous les risques de noyade et l'insécurité que cela suscite, affirme une mère de famille. Aujourd'hui, l'eau coule dans plusieurs quartiers, ajoute-t-elle avec satisfaction. Cette mère de famille a remercié la SNEL d'avoir établi le courant électrique qui alimente les machines de la régie des eaux. Cette pénurie d'eau était également un calvaire pour des populations sans moyens, mais aussi pour les déplacés des guerres qui n'ont pas de moyens pour s'acheter de l'eau auprès des revendeurs et dont le prix a connu une montée en flèche. Rappelons que les lignes à haute tension de la SNEL avaient été endommagées vers Nyabibwe sur l'axe Goma-Bukavu à la suite des affrontements à l'armée lourde entre l'armée congolaise et ses alliés contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La réparation de cette ligne ligne à haute tension a été rendue possible grâce à l'appui du CICR qui a facilité l'accès des techniciens dans la zone de Niabiboué.
Direction l'Ituri, les casques bleus de la MONUSCO ont déjoué plusieurs attaques des groupes armés en une semaine, protégeant les sites de déplacés et les localités voisines dans le territoire de Djougou. Selon des témoignages sur place, sans la présence onusienne aux côtés des FARDC, un carnage aurait eu lieu, surtout après le meurtre de 52 civils dans le groupement Djaïba. Dans la nuit de vendredi à hier samedi, un groupe armé avançant vers le site de la plaine de Savo a été repoussé par les tirs des forces de la MONUSCO. Le récit de Isaac Remoyope.
Le mouvement des miliciens de la Codeco dispersé en plusieurs groupes est très intense depuis plus d'une semaine dans les territoires de Djougou, affirmaient des sources locales. Trois sites déplacés, Djaïba, Loda et Plaine de Savo, et une dizaine de villages ont été la cible de leurs attaques pendant la semaine. Mais elles ont été déjouées par les casques bleus et les FARDC qui sont en alerte permanente. La nuit de vendredi à samedi, à la colline des Pies vers Boulé, des échanges de tirs ont été signalés entre les forces conjointes MONUSCO et FARDC et 16 inciviques qui ont été mis en déroute. Pendant leur fuite, ils ont pris en otage un bouvier et son fils qui paissaient leur troupeau. Ces derniers ont été libérés quelques minutes après par les ravisseurs qui ont emporté quelques chèvres. Cependant, une panique a gagné la population centre commercial de Boulé. Face à ces multiples menaces, des centaines d'habitants des localités proches des sites et d'autres déplacés sont actuellement concentrés autour des bases de la MONUSCO, notamment à Djaïba. Selon eux, sans la présence de la force onusienne, il y aurait déjà eu carnage de la population. L'un des témoigne.
Ici, elle serait embrasée. Djaïba serait fini. À quelques heures, ce serait fini déjà. Mais quand MONUSCO, quand il passe par là, c'est ça qui a quand même sauvé. Mais maintenant, les gens passent la nuit, les jeunes avec quelques mamans, même à la porte, même là de MONUSCO.
Signalons que les casques bleus de la MONUSCO installés à Djaïba et Bayo reçoivent plusieurs alertes chaque jour. Des retours de Djougou, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, les récentes attaques des miliciens de la Codeco dans les localités de Fataki, Ro et Drodro dans le territoire de Djougou perturbent sévèrement les activités scolaires. Selon le directeur de la province éducationnelle de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Ituri 1, au moins 14 écoles ont temporairement suspendu les cours en raison des déplacements de la population. Le provède Yvan Mouké à Boissel s'exprime au micro de Yolande Issosia.
Je venais de recevoir un rapport circonstancié établi par le chef de la sous-division faisant état de l'arrêt momentané de cours pratiquement dans 14 écoles suite à certaines attaques dans les milieux. Donc c'est ça la situation que nous avons à l'heure actuelle. Généralement, dans ce genre de cas, il y a des dispositions que l'on prend dans le sens de créer ce que nous appelons les espaces temporaires d'apprentissage. C'est là où on peut réunir les enfants pour que les enseignements puissent continuer en attendant que le calme revienne dans leurs milieux respectifs pour que les enfants reprennent le cours dans leurs écoles. Donc, ils sont jusque-là au niveau des espaces d'apprentissage pour la poursuite des activités scolaires.
Autre nouvelle, toute personne résidant en RDC est interdite de procéder au morcellement parcellaire dans les agglomérations urbaines sans autorisation préalable des services compétents. Cette décision effective depuis le 21 février 2025 a été annoncée par le ministère congolais de l'urbanisme. Elle vise à renforcer le respect des lois en matière de l'urbanisme, de l'environnement, de l'hygiène et du développement urbain. Des précisions avec Billy Van Lutumba.
Seule la conformité aux prescrits et règlements ne suffit pas pour approuver un morcellement par l'autorité de tutelle. Ne peut être approuvé qu'un morcellement parcellaire à la dimension minimale de 300 mètres carrés de superficie, précise l'arrêté ministériel. C'est-à-dire qu'en multipliant les différentes dimensions d'une parcelle morcelée, on doit trouver une réponse ou une surface qui n'est pas en dessous de 300 mètres carrés. Il en est de même pour toute nouvelle parcelle à lotir. Ainsi dit, aucun document parcellaire ne peut être octroyé pour toute parcelle ne répondant pas à ces nouvelles dispositions. Au sujet des motivations pour ces nouvelles mesures, la ministre évoque une augmentation incontrôlée du nombre d'habitants requis par parcelle ou quartier, avec comme implication le dysfonctionnement dans la desserte d'eau ou d'électricité. Parmi autres conséquences du découpage anarchique des parcelles, le ministère cite la promiscuité due aux petites dimensions des parcelles qui entraînent des conflits entre voisins liés aux limites parcellaires, la gestion des déchets et des eaux de ruissellement.
Actualité internationale. Le pape François, 88 ans, reste dans un état critique et son pronostic est actuellement réservé, indique un communiqué du Vatican publié hier samedi. Le Saint-Père entame sa deuxième semaine d'hospitalisation pour une pneumonie des deux poumons, indique la même source. Et pendant ce temps, des fausses informations circulent déjà sur le fait que le souverain pontife renonce à sa charge. Et sur certains réseaux sociaux comme X, des infox ont même annoncé sa mort.
L'invité.
Les États-Unis imposent des sanctions contre James Kabarebe, ministre d'État rwandais, et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23 AFC, pour leur soutien au M23 dans l'Est de la RDC. Dans une interview sur Radio Okapi, le président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC, a salué ces mesures coercitives tout en les jugeant insuffisantes. Il suggère que le gouvernement congolais renforce ses efforts diplomatiques pour convaincre les partenaires internationaux qui soutiennent le Rwanda. Pour Charles Bamana, c'est avec l'appui de ses partenaires que les Congolais pourront résoudre ensuite leurs différends internes à travers le pacte social pour la paix, comme le préconisent la CENCO et l'ECC. Charles Bamana s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Charles Bamana.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Quelle analyse en faites-vous de la pression des États-Unis sur les Rwandais, notamment avec des sanctions infligées à certaines autorités de la rébellion, dont les ministres rwandais des affaires régionales James Kabarebe?
Nous sommes satisfaits à moitié. Le gouvernement du Congo demande les sanctions contre le Rwanda. Qui dit gouvernement rwandais, vous connaissez qui est le gouvernement rwandais. C'est le président rwandais, le premier ministre, mais les autres, ils ont choisi quelques éléments qui ne sont pas les moindres, mais qui ne pèsent pas sur la scène internationale. On a sanctionné M. Kabarebe, on a sanctionné M. Kanyuka, mais la guerre continue. Mais je pense que nous nous demandons plus que ça.
Hormis de telles sanctions, qu'est-ce que vous conseillerez à la communauté internationale pour faire plier les régimes de Kigali?
Les régimes de Kigali, en tant qu'une chose, les sanctions, ça ne va pas leur plier. Le régime de Kigali, il faut le citer nommément, il faut une résolution ferme. Je pense que les grandes puissances occidentales, ils ont le pouvoir de stopper cette guerre s'ils le veulent. Les sanctions ne vont pas stopper le M23 d'avancer. Les sanctions ne vont pas stopper M. Kagame avec son régime d'agir ou de supporter toujours le M23. Mais nous nous demandons que les puissances internationales ou les grandes puissances, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent appeler à l'arrêt de cette guerre. Donc pour nous, nous demandons que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la France, ils ont le pouvoir de stopper cette guerre. Mais ils sont en train de passer par le dos de la cuillère avec les sanctions qui ne disent pas le mot suspendre ou quelques individus qui ne pèsent pas trop. Et cela, ça ne nous arrange pas.
Au niveau national, l'initiative lancée par les catholiques et les protestants ne fait pas l'unanimité. D'autres tiennent au processus de Nairobi et de Luanda. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au niveau de l'UDDC, l'Union pour la démocratie et le développement du Congo?
Chez nous, à l'UDDC, nous pensons que ce problème qui se passe au Congo, c'est un problème politique. Le problème politique, ça demande une thérapie politique. Moi, je ne suis pas du tout convaincu avec la démarche de nos pères spirituels. Ils parlent du pacte social. Mais moi, je ne pense pas qu'on va résoudre le problème avec ce pacte. Le Rwanda est en train de nous agresser. Nous devons nous liguer, nous tous, et les religieux et les politiques, pour demander que la guerre finisse. Et après, nous aurons nos problèmes internes.
Ils ont sillonné, mais ils sont allés même à Kigali.
Ils sont partis à Kigali, mais moi, je ne suis pas prophète de malheur. Je pense que leur démarche ne va pas résoudre le problème. Ce problème, c'est quoi? C'est le Rwanda qui veut avoir des portions de terre. Il faut qu'on se le dise. Le Rwanda veut des terres au Congo. Le Rwanda veut faire les affaires au Congo. Ils veulent entrer et sortir.
Qu'est-ce que vous pensez à ceux qui estiment qu'il faut s'attaquer aussi diplomatiquement aux pays qui soutiennent la démarche du Rwanda?
Le pape qui était venu ici, le pape François, il avait dit, c'est à Kinshasa, laissez le Congo, ce n'est pas votre champ. Le pape l'avait dit, c'est parce qu'il avait bien compris. Ils vont faire les efforts diplomatiques. Mais d'un côté, nous avons un problème à l'interne où nous avons notre armée, où nous avons mis notre espoir. Mais notre armée ne parvient pas à faire le travail comme il le faut. Donc, nous devons maintenant être réalistes, de céder un peu quelque chose pour que nous puissions avoir la paix. Et nous n'allons pas céder n'importe quoi. C'est ainsi que nous appelons que les politiques puissent s'impliquer, que les religieux viennent voir les politiques Et ensemble, on peut voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut donner pour qu'on puisse arracher la paix. Je ne sais pas pourquoi le Rwanda, il est l'enfant chéri des autres. Nous aussi, nous devons aussi voir dans quelle mesure nous pouvons aussi peut-être aller dribbler le Rwanda pour... Nous avons beaucoup à offrir. Qu'est-ce qui nous manque? Moi, je pense que notre gouvernement doit être réaliste. Chercher par quels moyens nous devons aussi offrir pour que nous devenions les enfants chéris. Parce que nous, c'est chez nous où il y a le coltan. C'est chez nous où il y a de l'or. C'est chez nous où il y a l'uranium. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour que nous soyons des enfants chéris. Donc, si nous pouvons arrêter cette guerre, allons chercher des partenaires en échange qui peuvent avoir ce que nous avons pour qu'ils puissent nous arracher la paix. Je pense que c'est une guerre économique. Il faut maintenant travailler maintenant d'une façon stratégique. Que les gouvernements puissent un peu arrondir ses ongles pour donner aussi ce que le Rwanda donne aux autres. Ainsi, nous allons arracher la paix et nous allons nous organiser. Nous allons avoir une armée jeune, une armée qui peut nous sécuriser. Nous avons besoin d'avoir la refondation du Congo. Nous devons refonder le Congo avec une armée nouvelle, une nouvelle classe politique, une nouvelle justice. Ainsi, le Congo va redémarrer.
Monsieur Charles Bamana, nous vous disons merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Le président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC, répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.